Chers amis, chers camarades, vous le savez, cette fête n'est pas seulement la fête de lutte ouvrière, mais aussi celle de notre courant international, l'Union communiste internationaliste. Alors, à l'occasion de cette intervention sur les questions internationales, je tiens à saluer spécialement ces camarades qui militent dans d'autres pays du monde et qui nous ont rejoints pour ce week-end de fête. Et cette fête est aussi la leur. La situation internationale est marquée par la guerre en Ukraine. Les morts, les blessés, les atrocités sur les civils, la destruction systématique des infrastructures, des ponts, voies ferrées, hôpitaux, immeubles. Toutes les images qui nous viennent des zones de combat sont glaçantes. Mais comme la guerre s'installe dans la durée, eh bien on s'habitue à ces images de ces femmes et de ces hommes en larmes à 2000 km. Et au fil des semaines, cette guerre devient un bruit de fond, comme la guerre du Donbass l'été. Parce que dans le Donbass, l'armée et les milices ukrainiennes, formées et équipées par les États-Unis, s'affrontent aux séparatistes pro-russes, armés par la Russie, depuis 2014. Ce conflit de basse intensité, comme disaient les spécialistes, a ravagé cette région industrielle 8 années durant et a fait, mois après mois, année après année, 14 000 morts. Eh bien, ce sont ces affrontements qui se sont maintenant transformés en guerre de haute intensité. Et personne ne peut affirmer que ce conflit n'est pas la première étape vers une nouvelle guerre mondiale. Le capitalisme n'a pas inventé les guerres, mais il l'a inscrite dans son mode de fonctionnement et il les a industrialisées. En gagnant toute la planète, le capitalisme s'est transformé en impérialisme. Il a répandu partout ses rapports d'exploitation et de domination. Partout, il a introduit des inégalités ahurissantes, l'opulence d'un côté, le dénuement absolu de l'autre. Partout, les pays impérialistes ont joué sur les différences ethniques, religieuses ou nationales, pour coloniser ou installer leur domination. Ils se sont appuyés sur des régimes corrompus et sanguinaires, voire ils en ont mis sur pied, en se présentant bien sûr toujours comme les champions de la liberté et de la démocratie. Pour des dizaines de millions de femmes et d'hommes dans le monde, la guerre est permanente. Le Moyen-Orient est une poudrière depuis des décennies. Sur le continent africain, la guerre est aussi endémique que la malnutrition. Palestine, Yémen, Irak, Inde, Pakistan, partout sur la planète, il y a une multitude d'affrontements qui peuvent se transformer en guerres locales et les guerres locales en affrontements plus généralisés. Mais la guerre en Ukraine n'est pas qu'un conflit de plus. Elle marque peut-être un tournant. Parce qu'elle oppose directement deux grandes puissances. La première puissance impérialiste mondiale, les États-Unis, à la Russie. La Russie qui est décrite comme une puissance pauvre, mais une puissance militaire, une puissance gazière et pétrolière, une puissance céréalière aussi. Oh, les deux puissances ne se sont pas formellement déclarées la guerre. Elle est un fait. Du côté de l'Ukraine, les troupes et les morts sont ukrainiens, tandis que les armes, les instructeurs, le renseignement et l'argent sont américains. Et regardez comment les dirigeants américains sont devenus euphoriques depuis le retrait des troupes russes dans le nord du pays. Certains en sont à envisager la reconquête de la Crimée. Et ils le disent à demi-mot, ils veulent prolonger la guerre pour affaiblir durablement la Russie qu'ils encerclent depuis 30 ans. Alors, cette guerre en Ukraine n'est pas seulement une guerre nationale dans laquelle un petit pays résiste à l'invasion de son puissant voisin. C'est une guerre impérialiste. Même si Poutine est responsable de l'invasion de l'Ukraine, c'est-à-dire de la phase actuelle de leur bras de fer, Cette guerre se mène entre deux brigands pour savoir lequel contrôlera les territoires, les matières premières et les marchés. Et cette guerre est en train de s'étendre. Cela se passe sur le terrain diplomatique. Chaque pays est mis au pied du mur et doit dire dans quel camp il se situe, s'il participera ou pas aux sanctions contre la Russie, par exemple. Ce système d'alliance qui se met en place prépare l'étape suivante, l'intervention militaire des autres pays. Pour l'heure, la Chine de Xi Jinping essaye de se tenir à l'écart. Mais le simple fait qu'elle refuse d'appliquer les sanctions contre la Russie la place dans le camp de Poutine et donne aux États-Unis un nouveau prétexte pour cibler la Chine, qu'ils viennent de menacer d'une guerre frontale si elle cherchait à récupérer Taïwan. Je dis bien prétexte parce que la guerre des États-Unis contre la Chine n'a pratiquement jamais cessé depuis la guerre paysanne qui a porté Mao au pouvoir et qui donna à son régime la capacité de résister à l'emprise directe de l'impérialisme. Cela a été une guerre tantôt diplomatique, tantôt économique, tantôt militaire, tantôt les trois en même temps. Alors, n'oublions pas les paroles de Jaurès. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Et tant qu'on n'en finira pas avec le capitalisme, avec les rivalités impérialistes, eh bien on n'en aura pas fini avec la guerre. Les va-t-en-guerres occidentaux prétendent se battre pour la liberté et l'indépendance de l'Ukraine. Mais même si l'Ukraine gagne la guerre en cours, elle deviendra un protectorat américain. Dans cet ordre impérialiste, les pays pauvres se retrouvent toujours à la merci des pays riches, tout comme les prolétaires, les travailleurs, tous ceux qui sont forcés de vendre leur force de travail sont à la merci de la bourgeoisie. Dans cette société, il n'y a de véritable indépendance et de liberté que pour les plus riches, que pour les plus puissants. Et puis même face à la guerre, il n'y a pas d'égalité. Ce sont les travailleurs les plus pauvres qui en souffrent le plus. En Ukraine aussi, il y a les profiteurs de guerre, les oligarques ukrainiens passés du côté américain, et de l'autre, les masses pauvres d'Ukraine, qui n'ont que leurs yeux pour pleurer leurs morts, leurs maisons détruites, leurs infrastructures ravagées. Et n'en doutons pas, c'est aux travailleurs ukrainiens que les dirigeants occidentaux présenteront la facture demain. C'est à eux qu'ils présenteront les milliards qu'ils dépensent aujourd'hui pour mener la guerre contre Poutine. Alors il n'y a aucune confiance à avoir dans ce que font nos dirigeants en Ukraine. Ne nous laissons pas embrigader. Leur guerre n'est pas notre guerre. La guerre des capitalistes n'est pas la guerre des travailleurs, qu'ils soient ukrainiens, russes, américains ou européens. Cette guerre n'est pas la guerre de la démocratie contre la dictature. C'est comme cela que tous les livres d'histoire présentent la Seconde Guerre mondiale. La guerre de la démocratie contre le fascisme. C'était déjà une escroquerie pour la Seconde Guerre mondiale, où le grand chef du camp prétendument démocratique, les États-Unis, ont mis des années à choisir leur camp, après avoir laissé l'Allemagne nazie conquérir l'Europe. Les alliances qui ont présidé à la Seconde Guerre mondiale n'ont pas été fondées sur des oppositions philosophiques ou morales, mais sur les rapports de force économiques et militaires. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Les prétendues grandes démocraties ne sont d'ailleurs pas gênées de s'appuyer sur des régimes aussi moyenâgeux que l'Arabie saoudite. Ça ne les dérange pas qu'au Proche-Orient, Israël, leur principal allié, colonise et nie à la Palestine son droit à l'existence. Aujourd'hui, les dirigeants occidentaux dénoncent les massacres et les viols commis en Ukraine. Et ils demandent instamment que les coupables soient punis. Mais les femmes violées par les soldats de l'armée française au Rwanda en 1994 attendent toujours que justice soit faite. sans parler des victimes des guerres coloniales françaises, de l'Algérie à la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie, et j'en oublie. Comme le nationalisme, la défense des valeurs démocratiques sert surtout à embrigader la population derrière la classe dirigeante. Elle sert à préparer les esprits à la prochaine guerre. Eh bien, nous devons refuser de marcher au pas. Alors, dans cette guerre russo-ukrainienne, nous ne comptons pas sur les grandes puissances occidentales, nous comptons sur les peuples, à commencer par le peuple russe. Nous comptons sur la capacité des travailleurs à refuser les affrontements que les bourreaux comme Poutine leur imposent. Contre les guerres impérialistes dont nous menacent nos dirigeants, notre politique doit être prolétaire de tous les pays. Unissons-nous, unissons-nous contre la classe capitaliste et ses politiciens dont la guerre économique permanente nous conduit à la guerre tout court. Guerre en Ukraine, contre-coup des confinements en Chine, désorganisation du transport maritime international, épisode de sécheresse aux quatre coins du monde, l'économie mondiale navigue entre goulots d'étranglement et risques de pénurie, toutes choses amplifiées et aggravées par les spéculateurs qui s'en donnent à cœur joie. Ici, en France, nous devons faire face à une hausse des prix estimée à 5 ou 6 %. C'est 8 ou 9% aux États-Unis. En Turquie, l'inflation oscille entre 70 et 120% selon les sources. Au Sri Lanka, rien qu'en avril, les prix ont augmenté de 34%. Là-bas, en 6 mois, le litre de diesel a augmenté de 230%, l'essence de 137%. Partout, les prix de l'essence, du gaz, du blé, de l'huile, des engrais, l'alimentation du bétail et maintenant des produits manufacturés s'envolent parce que les groupes capitalistes se font la guerre pour accéder aux matières premières. Ils font des stocks et spéculent pour empocher des super profits. Le secrétaire général de l'ONU vient d'alerter sur l'arrivée d'un ouragan en Afrique. Un ouragan, donc, en Afrique, qu'il a appelé donc un ouragan de famine. Parce que, pour des centaines de millions de femmes et d'hommes des pays pauvres, dont la vie, au sens premier du mot, dépend du prix du blé, oui, c'est le spectre de la famine. Combien de pays, comme le Mozambique ou l'Égypte, ne pourront plus acheter les stocks de blé vitaux? Combien devront rationner leur population? Combien d'émeutes de la faim éclateront à la suite de cela? Et combien d'affrontements entre pays voisins ou entre communautés en découleront? Parce qu'il y aura toujours des politiciens ou des gouvernements pour jouer de la démagogie et faire diversion en dressant les communautés les unes contre les autres. Alors tous ceux qui spéculent et font flamber les cours du blé ou du pétrole sont des criminels. Et ces criminels-là ne sont pas à Moscou. Ils passent leurs ordres dans les salles de marché à New York, Chicago, Londres, Francfort, Paris. Ils ne tuent pas avec des bombes, mais en affamant les peuples. Eh bien, ils sont les premiers fauteurs de guerre. Nous devons les dénoncer et les combattre. La déstabilisation ne menace pas que les pays pauvres. La crise énergétique entraînée par la guerre et les sanctions rebat aussi les cartes entre les grands groupes capitalistes. Parce que les pays impérialistes ne forment pas un bloc face à Poutine. Ils sont en rivalité économique les uns contre les autres. Les États-Unis avec l'Europe et les pays européens entre eux. Quand l'Allemagne, première puissance industrielle d'Europe, est fragilisée par sa dépendance au pétrole et au gaz russe. Les États-Unis sont renforcés et ils ont une occasion en or pour imposer leur gaz de schiste. quand la France fera tout pour défendre et sans doute éponger les pertes de ses champions installés en Russie, Total, Leroy Merlin ou Renault. L'Allemagne d'Olaf Scholz veillera sur les intérêts de Volkswagen ou de BASF. Le géant de la chimie, dont les installations seraient mises à l'arrêt si le gaz russe finissait par être coupé. Quant au marché de l'armement, le plus prometteur, puisque tous les budgets militaires explosent, il sera un des terrains d'affrontement économique les plus féroces. Et c'est déjà un sujet de fâcherie entre la France et l'Allemagne, puisqu'au grand dam de Dassault et de son Rafale, l'Allemagne a osé choisir les F-35 américains. Tous les rapports de force sont en train de changer. Et ils ne se mesurent plus seulement en capacité énergétique, en exportation d'automobiles ou de machines-outils, mais aussi en avions de combat, en satellites de surveillance, en missiles ou en drones tueurs. Ils se mesurent aux dizaines de milliards consacrés à se réarmer. Alors même que partout, l'argent manque cruellement pour les hôpitaux, les écoles, les transports publics, pour investir dans la transition écologique. La concurrence, cette guerre économique incessante, c'est elle qui éclate régulièrement en affrontements armés. Toutes les déclarations de guerre se drapent dans de grands principes. La démocratie, l'indépendance nationale, les droits humains. La réalité est que le système capitaliste ne peut pas vivre sans dresser les peuples les uns contre les autres. Le capitalisme nous condamne à la barbarie, eh bien, un tel système est voué à disparaître. Le monde entier va vers plus de militarisme, plus d'autoritarisme, plus de nationalisme, plus d'idées réactionnaires. Ce n'est pas une nouveauté en Russie, où Poutine entretient depuis longtemps un nationalisme grand russe, avec l'onction du patriarche orthodoxe Kirill, le goupillon n'étant jamais bien loin du sabre. Mais en Ukraine, c'est cette guerre qui a donné une véritable base au sentiment national. Avant l'invasion russe, nombre de familles vivant en Ukraine, souvent russophones, se refusaient de se définir comme exclusivement ukrainiennes ou russes. Eh bien, la brutalité de l'armée russe, les souffrances et les cruautés qu'elle a infligées aux Ukrainiens ont tranché. Poutine a été le meilleur agent du nationalisme ukrainien. Et qui sort aujourd'hui renforcé de ces affrontements ? Les officiers de l'armée ukrainienne, les chefs des milices, souvent d'extrême droite, le bataillon Azov, tristement connu pour ses références aux nazis, pour son racisme et son antisémitisme, mais qui a été promu héros de la défense de Mariupol. Alors que Poutine prétendait sauver les Ukrainiens du nazisme, c'est lui qui aura finalement accru le poids politique des dirigeants et des forces les plus réactionnaires. Alors oui, on assiste à une nouvelle avancée de l'extrême droite à l'est de l'Europe. Elle vient s'ajouter aux forces ultra-réactionnaires qui gouvernent déjà en Hongrie et en Pologne. Mais ces forces réactionnaires sont à l'œuvre un peu partout dans le monde. L'Inde, ce sous-continent, est une poudrière qui peut exploser à tout moment. Modi se maintient au pouvoir en jouant de la pire démagogie nationaliste, opposant les hindous aux autres ethnies, et en particulier aux musulmans, multipliant les provocations contre eux. Et sur le continent africain, combien y a-t-il de démagogues prêts à faire ressurgir d'anciens conflits, prêts à s'appuyer sur les préjugés et à alimenter les replis ethniques ou religieux que la faim et la misère ravivent ? Le retour de la burqa en Afghanistan est un des signes les plus barbares du recul de notre société. Mais que dire de l'omniprésence des bondieuseries et du retour en force des opposants à l'avortement aux États-Unis, la première puissance mondiale. Trump a été remplacé par Biden, mais l'extrême droite identitaire n'a pas disparu aux États-Unis. Les meurtres récents de Noirs par des suprématistes blancs, comme la dernière tuerie raciste à Buffalo, le rappellent. tragiquement. Ici, en France, l'extrême droite est renforcée par ses succès électoraux. Sur le terrain de la xénophobie crasse et sans filtre, Le Pen s'est même fait doubler sur sa droite par un Zemmour qui a eu tous les micros ouverts pendant des mois. J'en ai parlé hier. Les idées d'extrême droite gangrènent de plus en plus la police et l'armée. Le racisme, la xénophobie ou l'islamophobie sont de plus en plus décomplexés. Plus l'humanité fusionne en un seul et même ensemble, plus la pression des groupes identitaires, nationalistes, religieux, communautaristes s'intensifie. Plus nous travaillons et vivons ensemble, entremêlés et interdépendants les uns des autres, plus sont actifs ceux qui œuvrent à nous séparer, à nous opposer les uns aux autres en fonction de notre sexe, de nos idées, de nos origines ou de notre couleur de peau. Eh bien, cette évolution est aberrante et profondément réactionnaire. Il suffit aujourd'hui de quelques cas de Covid à Shanghai pour ralentir tout le commerce mondial. Il y a quelques jours, des experts expliquaient l'augmentation de 10% des prix de l'essence à la pompe que nous avons subi là dernièrement par le fait que les Américains ont beaucoup pris la voiture ce week-end pour partir donc en vacances. Apple, Amazon, Total et toutes les grandes entreprises nous relient par une même chaîne de production et de consommation. Les mineurs du Congo, les ouvriers de Chine et du Vietnam, les marins pakistanais ou philippins, les magasiniers et les livreurs d'ici. Aujourd'hui, la vie de milliards de femmes et d'hommes est à cheval sur 2-3 pays différents, quand ce n'est pas plus. À Paris, cela fait bien longtemps que les femmes de ménage ne viennent plus du fin fond de la Bretagne, mais de l'Algérie, du Mali, du Cap-Vert, d'Haïti ou du Bangladesh. Cela fait longtemps que les maçons de la Creuse ont laissé la place aux ouvriers portugais, turcs, polonais, ivoiriens et maintenant égyptiens et afghans. De chez soi, il est possible de se connecter à Google Earth et de voir ce qui se passe dans une rue de Harlem, quasiment en temps réel. Des centaines de millions, si ce sont des milliards de personnes, ont vu George Floyd maintenu menotté et asphyxié par le plaquage ventral d'un policier et ont été révoltés par cet assassinat parce que, oui, à l'échelle de la planète, nous vivons de plus en plus au même rythme. Nous nous révoltons aux mêmes infamies. Nous vibrons aux mêmes progrès scientifiques ou techniques. Et c'est dans ce moment-là de l'histoire de l'humanité que certains dressent les peuples les uns contre les autres, qu'ils construisent des murs, érigent des grilles et des barbelés et veulent nous mettre en condition pour partir en guerre. Eh bien, sachons résister à tout cela. Sachons résister à cela. Et cela commence à s'opposer aux frontières que l'on installe dans nos têtes. Cela commence à s'opposer aux peurs, aux méfiances, aux oppositions, aux interdits, aux vieilles haines ressassées entre les peuples, que certains essayent, oui, d'installer dans nos têtes. Le monde du travail en a la capacité, à condition de renouer avec la conscience de ses intérêts de classe, à condition de renouer avec la conscience, comme disait Marx, que les travailleurs n'ont pas de patrie. Les travailleurs n'ont pas de patrie, car aucun pays ne leur assure le pain et le toit. Pas même celui où ils sont nés. C'est la réalité vécue par des centaines de millions de femmes et d'hommes condamnés à l'exil. C'est la réalité des femmes et des hommes condamnés à vivre dans des camps infâmes. C'est ce que vivent des millions de migrants ballottés d'un pays à l'autre pendant des années. Le propre d'un exploité, c'est d'être voué à se déplacer, à changer de région, de pays et parfois de continent pour étudier ou pour travailler et gagner sa vie. Alors le nationalisme, ce n'est bon que pour les bourgeois. Ça leur sert à soumettre les exploités à leurs intérêts. Notre sort, notre émancipation, dépend de notre capacité à faire revivre la conscience de classe, la conscience d'avoir à se battre avec tous nos frères d'exploitation contre les exploiteurs, la conscience internationaliste. La conscience d'appartenir à la même classe sociale, d'avoir des intérêts communs entre exploités par-delà les frontières n'est pas innée. C'est cette conscience internationaliste qu'a toujours voulu porter le mouvement ouvrier communiste révolutionnaire. Marx et Engels, il y a plus de 180 ans, ont su voir l'avenir international de l'humanité. À une époque où les villes et l'industrialisation n'étaient encore que des îlots dans un océan rural, à une époque où une grande partie de la population vivait encore de ce qu'elle produisait de ses propres mains. Eh bien, à cette époque-là, ils ont vu que le capitalisme poussait à la mondialisation. À leur époque, même si les liens tissés entre les êtres humains des quatre coins du monde étaient encore loin du degré d'interdépendance d'aujourd'hui, la mondialisation était en marche. Et ils avaient la capacité d'anticiper sur l'avenir à partir des forces puissantes qu'ils voyaient se déployer. Eh bien, la conviction que l'avenir de l'humanité était international était à la base de la fondation de la première internationale, première tentative de créer un parti mondial de la révolution pour renverser le pouvoir de la bourgeoisie capitaliste et créer les conditions de la coopération fraternelle de tous les peuples. Eh bien, c'est une vision de l'avenir plus enthousiasmante que les lamentables appels au repliement et à la méfiance de tous les intellectuels de la bourgeoisie d'aujourd'hui. Alors, contre ceux qui veulent faire tourner la roue de l'histoire à l'envers, eh bien, nous sommes fiers, nous, de nos perspectives internationalistes. Dès son origine, le capitalisme a fait tomber les frontières et il a progressivement uni les différents continents dans un même système de production. C'est un processus irréversible qui rend possible le communisme. Cette division internationale du travail est aujourd'hui si poussée qu'aucun retour en arrière n'est possible sans devoir se passer de la quasi-totalité des objets que nous utilisons tous les jours. Même aujourd'hui, quand les puissances occidentales voudraient se passer du gaz russe, elles n'y arrivent pas. Et même Le Pen, le chantre du protectionnisme en France, ne le demande même pas. Dans le cadre du capitalisme, sous le règne de la propriété privée, de la concurrence, la mondialisation a été une catastrophe. Une catastrophe parce que les grands groupes capitalistes ont industrialisé, mécanisé, développé les moyens de transport ou de communication en exploitant les hommes et la nature jusqu'à leur extrême limite, parce qu'ils ne sont guidés que par l'augmentation de leurs profits. Une catastrophe aussi, parce que cette mondialisation, réalisée dans le cadre d'une planète morcelée entre États nationaux rivaux, conduit forcément à des guerres, et à des guerres de plus en plus mondiales. Mais les multinationales gèrent l'économie à l'échelle du monde, et elles prouvent qu'il est possible de le faire. Elles le font de façon désastreuse et irresponsable. Mais elles ont construit les outils de prévision, d'organisation, de rationalisation puissants. Ces outils, eh bien, ils sont susceptibles de répondre aujourd'hui aux besoins de toute l'humanité. Alors, en les arrachant des mains des capitalistes, eh bien oui, les travailleurs peuvent faire en sorte qu'enfin, l'humanité maîtrise son économie, la planifie consciemment pour répondre aux besoins de tous et pour assurer bien sûr aussi l'avenir de la planète. Un objectif aussi vaste peut sembler inatteignable, voire fou, à une époque où même s'organiser à l'échelle d'un pays est compliqué. Mais je le répète, notre classe sociale est déjà organisée à l'échelle internationale par les capitalistes eux-mêmes, à l'échelle du monde. La classe ouvrière n'a jamais été aussi forte numériquement qu'aujourd'hui. Il y a partout des prolétaires, et des prolétaires qui se battent, en Chine, en Inde, mais aussi au Pakistan, en Birmanie, en Indonésie, et même aux Maldives. Au Sri Lanka, les travailleurs luttent pour résister à l'effondrement de leur niveau de vie. En février, des milliers de travailleurs haïtiens du textile, surtout des femmes, ont manifesté pour le triplement de leur salaire minimum à 1500 gourdes, soit 13 euros par jour. Aux États-Unis, ce temple du capitalisme Des dizaines de milliers de travailleurs ont fait grève à l'automne dernier dans l'agroalimentaire, la santé et l'industrie, comme chez le constructeur de tracteurs John Deere et le fabricant de céréales Kellogg's. Et malgré l'opposition hargneuse de leurs patrons respectifs, les salariés de certains entrepôts d'Amazon et de Starbucks constituent des syndicats. Toutes ces luttes sont limitées, voire isolées, mais elles montrent que la lutte des travailleurs est aussi indissociable du capitalisme que le sont l'exploitation et les guerres. Et quand une grève victorieuse dans une entreprise donnera de la force aux travailleurs de l'usine voisine pour engager le combat, le jour où le monde du travail se lèvera à l'échelle de tout un pays et ira jusqu'à contester la propriété privée et le pouvoir capitaliste, eh bien il trouvera le soutien d'autres travailleurs du monde parce que les révoltes et les révolutions ont toujours été contagieuses et c'est à cela qu'il faut se préparer. C'est pour ces moments-là qu'il faut construire des partis communistes révolutionnaires et une nouvelle internationale. Cela fait peut-être 20 minutes que je parle. Eh bien, en 20 minutes, à l'échelle de la planète, 120 personnes meurent de faim. 55 personnes meurent de tuberculose, une maladie que l'on sait parfaitement soigner. Aux États-Unis, 4 personnes ont fait une overdose, la plupart du temps d'opiacés. 2 autres sont tuées par des armes à feu. Dans ces mêmes 20 minutes, Bernard Arnault a gagné 55 000 euros. Voilà le monde fou dans lequel nous vivons. Un monde dans lequel nous n'avons pourtant jamais eu autant de possibilités et de richesses. Eh bien, camarades, il faut tenir bon sur nos convictions. Si l'heure est au nationalisme, voire à la xénophobie, ce sont la solidarité et l'internationalisme qui représentent l'avenir. Si l'heure est au culte de l'individualisme et de l'argent roi, ce sont dans les valeurs collectives et dans celles de la coopération fraternelle de tous les peuples que se trouve la seule issue pour l'humanité et pour la planète, c'est-à-dire la perspective de la révolution mondiale et du communisme. Alors je vous souhaite bon courage à tous. Ainsi, bien sûr, qu'aux camarades des pays étrangers qui nous ont rejoints. Bon courage à tous. Bonne lutte, camarades. Et maintenant, on va reprendre ensemble l'international.
C'est l'éruption de la fin du passé. Faisons table rase, fous l'esclave.